Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que le débat sur le mariage pour tous occupe l'actualité, Franck Ferrand nous propose de jeter un coup d'œil au rétroviseur. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. La France, après une quinzaine de pays, s'apprête donc à rompre avec des traditions très anciennes en ouvrant l'institution civile du mariage aux couples de même sexe. Ce n'est pas rien lorsqu'on sait que dans 6 pays actuellement, l'homosexualité est encore passible de la peine de mort et qu'elle reste un délit dans de nombreux autres. Mais c'est plutôt sur le mariage lui-même que j'ai choisi d'axer cette émission pleine de résonance. Quelles ont été les évolutions du mariage à travers les siècles? C'est ce que nous allons nous demander cet après-midi.
Et vous avez invité Catherine Salle à nous rejoindre.
Et oui, Catherine Salle, spécialiste des institutions antiques notamment, et qui a dirigé avec Sabine Melchior-Bonnet un gros ouvrage collectif intitulé tout simplement « Histoire du mariage ». Je suis certain que vous avez une foule de questions à lui poser, alors n'hésitez pas, allez tout de suite sur le site internet d'Europe 1 et envoyez-nous vos questions, vos remarques et vos suggestions.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La marche nuptiale de Mendelssohn, extraite du Songe d'une nuit d'été, voilà quelques accords qui irrésistiblement dans nos esprits font songer à la robe blanche et à la pièce montée, aux alliances, aux lancers de riz et de pétales, aux dragées, tout un folklore cher notamment aux petites filles, mais pas seulement, tout un ensemble de traditions beaucoup moins anciennes en vérité qu'on pourrait le croire, nous allons voir tout ça dans un instant. Avant tout, le nom, le rang, la dot, l'alliance, la filiation, la descendance, la lignée, autant de termes liés pendant des siècles à la notion d'union conjugale, autrement dit de mariage. Que l'on parle de bague au doigt ou de corde au cou, de doux hymen ou de fil à la patte, qu'on l'idéalise dans une version pastorale ou qu'on le caricature en vaudeville, le mariage est le lien suprême de la société depuis des siècles, je pourrais dire sans doute depuis des millénaires, mais je m'en tiens aux périodes que je connais. N'oublions pas que pendant très longtemps, cette affaire d'union et d'alliance regardait avant tout les chefs de famille. Il n'était guère question d'amour entre les époux, ou en tout cas, si amour il y avait, il naissait souvent après le mariage. Le sacrement lui-même, car il s'agissait alors essentiellement d'une affaire d'église, était le point de départ de l'histoire des couples, non son aboutissement, comme il l'est devenu de manière assez récente. On raconte cette anecdote, vous savez, ça se passe au XVIIIe siècle, ça met en scène un haut magistrat, le président du Parlement de Dijon. « Mon père, demande le fils, serait-il vrai que vous me vouliez marier à cette demoiselle ?»« Mon fils, répond le père, mêlez-vous donc de vos affaires !» Il n'est que de relire les pièces de Molière pour mesurer les frustrations que tout ça pouvait causer. Car si l'amour avait peu droit de cité dans l'ancien mariage, il n'en travaillait pas moins nos ancêtres, évidemment. Voilà une chose qui n'a pas changé. Selon Beaumarchais, le mariage était, je cite, « la plus bouffonne des choses sérieuses ». Selon Regnard, un écueil pour l'amour. Selon Tolstoï, le plus odieux de tous les mensonges. Et même une institution obscène selon Simone de Beauvoir. Encore faudrait-il savoir de quel mariage on parle. Sous la Révolution, le sacro-saint mariage a été remanié en profondeur, puisqu'à côté du mariage religieux, et parfois contre lui, a vu le jour un mariage civil, et que ce mariage civil étant un acte public, juridique et solennel, il s'accompagne de la faculté de rupture. C'est l'institution du divorce, aujourd'hui devenue si répandue. Je vous rappelle que près d'un mariage sur deux en France débouche actuellement sur un divorce, et que depuis quelques années, les divorces par consentement mutuel sont même majoritaires. Il n'empêche, chaque année dans notre pays, ce sont environ 250 000 personnes qui se marient ou se remarient et 200 000 qui contractent un PACS, le pacte civil de solidarité, institué en 1999. Les PACS entre personnes de même sexe représentant d'ailleurs une faible proportion de cet ensemble, toujours moins de 10%. Disons-le clairement, le mariage d'aujourd'hui, avec ses implications commerciales importantes, intervient généralement tard dans la liaison amoureuse et il est infiniment moins contraignant que jadis. 1910, rappelons que progressivement, la femme a acquis l'égalité avec l'homme au sein du mariage civil. En 1938 est supprimée la puissance maritale et le devoir d'obéissance. En 1942, la femme est associée à la direction de la famille. En 1965, les femmes n'ont plus besoin du consentement marital pour choisir un métier ou ouvrir un compte en banque. En 1970, la notion de chef de famille est supprimée. Et en 1985, enfin, les époux deviennent pleinement égaux au regard de la loi. Vous avouerez tout de même que 1985, ça n'est pas très vieux. Tout cela évolue donc, change sans cesse dans un mouvement d'accélération qui peut donner le vertige aux généalogistes, les plus cramponnés forcément à cette institution. On est loin du long fil d'or qui ne rompt qu'à la mort, selon les vieilles paroles de la chanson de la mariée. Alors tout de suite, en compagnie de Catherine Salle, je vous propose de découvrir à quoi pouvaient bien ressembler les mariages d'autrefois.
C'était la marche nuptiale de Wagner. On vous retrouve, Franck Ferrand, avec votre invitée, Catherine Salle, qui a dirigé avec Sabine Melchior-Bonnier l'ouvrage « Histoire du mariage » aux éditions Robert Laffont.
Bonjour Catherine Salle.
Bonjour.
Alors on peut dire que cette histoire du mariage plonge ses racines extrêmement loin, probablement dans la proto, même dans la préhistoire, ça on n'en sait rien évidemment.
Dans la Bible, premier chef.
En tout cas dans la Bible, pour ce qui est des textes.
Oui, dans la Bible et les coutumes matrimoniales existent dans tous les peuples de l'Antiquité, avec des variantes bien sûr, mais que ce soit en Égypte, au Moyen-Orient, en Grèce, à Rome, dans tous ces pays-là, on a quand même des constantes la définition du mariage.
Alors, qui se mariait, on va dire dans l'Antiquité, si vous voulez, on va remonter à l'Antiquité gréco-romaine, ça nous suffira pour aujourd'hui.
Tout à fait. Eh bien, tout le monde ne se mariait pas. Voilà. Parce que pour se marier, c'est-à-dire pour pouvoir faire hériter de ses biens à sa descendance, que la descendance soit considérée comme légitime.
C'était quand même le but principal
du mariage. C'était le but
du mariage,
bien sûr. Mmh. Il fallait appartenir au corps de citoyens. Et épouser une femme qui elle-même soit fille de citoyen. Si un homme épousait une étrangère, ses enfants n'étaient pas légitimes et par conséquent ne pouvaient pas avoir droit à l'héritage.
Donc on comprend bien que dans cette antiquité, et on va voir que ça se prolonge évidemment au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, la notion d'amour est extrêmement secondaire. On peut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour dans les mariages, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, elle n'est pas au cœur de la question. C'est une question d'abord sociale.
Tout à fait. Le mariage d'amour est vraiment une invention, je dirais, du XXe siècle, parce que avant, l'amour ne comptait pas. De toute façon, vu l'âge, généralement, des petites fiancées qui avaient 12 ou 13 ans, on les mariait très jeunes, comme ça on était sûr qu'elles n'allaient pas faire des bêtises. À 12 ou 13 ans, on était à peu près sûr de leur moralité. Et par conséquent, généralement, elles rencontraient pour la première fois leur mari le jour du mariage. Donc, il n'était pas du tout question d'amour. Cependant, se développait ce que les anciens appelaient l'amour conjugal, qui pour eux était une forme d'amour.
Peut-être même la plus noble du reste.
Pour eux, la plus noble, bien entendu.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Rome, lorsqu'une jeune fille, qui donc est une jeune fille vierge par définition, si elle arrive au mariage...
Obligatoirement.
Ça ne doit pas faire, il n'y a aucune exception à cette règle.
Non, pas du tout.
Lorsqu'elle arrive au mariage, elle va subir un changement d'état considérable, puisqu'elle devient de jeune fille, elle devient femme en quelque
C'est-à-dire
sorte.
C'est-à-dire, c'est une double rupture. Pour la jeune fille grecque ou romaine, il y a une rupture sociale parce qu'elle passe de la maison de son père à la maison de son mari. Mm-hmm. Donc elle abandonne les dieux de la famille de son père pour adopter ceux de la famille de son mari.
Et parce qu'il faut dire que chaque famille a ses,
ses propres dieux.
Oui, ses
à Rome, ce
ses
sont
dieux.
Les dieux lards, mais voilà. Dans d'autres civilisations, il y a des dieux familiers. Et d'autre part, c'est une rupture physiologique puisque de vierge, elle va devenir femme. Et il y a, chez les anciens, le tabou du sang qui est quand même quelque chose de très grave. Par conséquent, il faut entourer cette défloration de beaucoup de rites qui vont permettre aux dieux de ne pas s'offenser de cette...
Est-ce que ces rites peuvent être rattachés au mariage? Ils font partie, en quelque sorte, du mariage?
Oui, c'est-à-dire qu'à Rome...
Plutôt de la maternité, en fait. C'est...
Non. C'est la nuit de noces qui est quand même entourée de beaucoup de précautions. Et c'est-à-dire ainsi qu'à Rome, on va présenter le mariage comme étant un pseudo-enlèvement. Le marié va emporter la jeune fille dans ses bras, avec ses garçons d'honneur, et on va donc dire que la jeune fille va verser son sang alors qu'elle n'était pas vraiment consentante. Bon, c'est un mythe, hein, c'est tout à fait...
C'est ritualisé.
Alors, on lui fait passer le seuil de la maison dans les bras de son mari ou d'un garçon d'honneur pour éviter qu'elle ne trébuche
alors,
sur le seuil.
Parlons de choses plus prosaïques, évidemment. Il y a aussi des affaires d'argent dans ces histoires de mariage. Hein. On passe des contrats, évidemment.
C'est le point principal. C'est-à-dire que le contrat qui se fait au moment des fiançailles, parce qu'à Rome, les fiançailles sont encore plus importantes que le mariage proprement dit. Il va donc y avoir des échanges de promesses de la part des parents, la dot de la jeune fille qui est toujours très importante. Et ce qui est caractéristique de la civilisation romaine, c'est que la femme reste propriétaire de sa dot, ce qui n'existe pas dans les autres civilisations. C'est-à-dire que la femme reste riche, ce qui va lui permettre de divorcer très facilement, d'ailleurs.
Alors là-dessus intervient évidemment la rupture majeure du christianisme. Que sera le mariage chrétien ? En quoi le christianisme va-t-il réformer, si je puis dire, en profondeur le mariage ? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, on parle mariage avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée, Catherine Salle, qui est maître de conférence à l'Université Paris 10 Nanterre, grande spécialiste de l'Antiquité romaine.
Et, oui, et qui a donc co-dirigé, avec Sabine Melchior-Bonnet, cet ouvrage sur l'histoire du mariage chez Robert Laffont. Alors, Eric nous demande via Internet, quelle est l'origine du mot, quelle est l'étymologie de mariage, Catherine Salle?
Notre mot mariage vient du latin, c'est matrimonium en latin, qui signifie rendre mère, c'est-à-dire que le mariage, par le terme latin, est lié à la notion de maternité. Ce qui fait le mariage, c'est en fait la naissance d'enfant.
Oui, voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui va servir de base au droit traditionnel, on va y venir dans un instant. Alors, disons que sous l'Antiquité, avant le mariage chrétien, on peut divorcer quand même, hein?
Ah oui, à Rome, on divorce, vous savez, les...
On divorce même allègrement à Rome,
Sénèque disait
oui.
que les femmes se mariaient pour divorcer et divorcer pour se marier. Parce que les femmes avaient le droit de demander le divorce, ce qui est aussi une caractéristique du monde romain.
Hein. Oui.
Elles pouvaient divorcer d'elles-mêmes et on a l'exemple de l'impératrice Messaline, qui alors que son mari, l'empereur Claude, était pas très loin de Rome, était hostie, va aller devant un magistrat en disant « Je divorce de mon mari, le mari n'était pas au courant. » Donc quand il apprend, il tombe de haut quand même. Et il va tuer sa femme d'ailleurs.
Oui, bah tout de même.
Oui.
Bah, on reste
il faut rester impérial.
Alors, avec l'arrivée du christianisme, évidemment, grand changement, ce mariage devient indissoluble. Alors, quand je dis indissoluble, il ne le sera pas pour les très hautes personnalités, pour les rois, pour les reines. Mais pour monsieur tout le monde, une fois qu'on est marié, c'est pour la vie. Hein.
Oui, saint Paul, dans ses épîtres, a bien dit que l'on ne pouvait pas rompre le mariage, alors que dans toutes les sociétés, il y a des possibilités de rupture du mariage, en particulier lorsque la femme est stérile. Hein. Mmh. Ça, c'est une grande cause de divorce ou l'adultère. Mais à partir de saint Paul, le mariage entre chrétiens devient indissoluble. Bon, comme vous l'avez
dit... Ça, c'est une révolution fondamentale.
Oui, c'est une révolution fondamentale, mais comme vous l'avez dit, il y a des aménagements avec le ciel. Parce qu'on a quand même des exemples de personnages importants, de rois, de princes, de ducs qui ont divorcé, tout simplement parce que le droit germain était entré en ligne de compte et qu'il y avait l'impossibilité d'épouser quelqu'un qui était son cousin au 7e degré. Alors, c'est très compliqué comme calcul, je ne le fais pas.
Oui, mais disons que les tribunaux ecclésiastiques, en tout cas le tribunal suprême, les saintes rotes, comme on dit...
Ils arrivaient toujours à trouver, lorsqu'ils voulaient un divorce, à trouver cela. Mais c'est la seule nouveauté du mariage chrétien au dans le, pendant le premier millénaire.
Oui, parce que à partir de, alors ça, je l'ai appris en préparant cette émission et grâce à vous, Catherine Salle, à partir de 1215, le mariage devient un sacrement. Alors là, ça change tout.
Là, ça change.
Ça, c'est une notion qu'on a un peu oubliée quand même.
Et oui, c'est très tardif, hein, le mariage, septième sacrement. C'est le Concile du Latran qui va décider effectivement que le mariage est un sacrement et qu'il doit être célébré à l'Église, ce qui n'était pas le cas jusque-là. On continuait à célébrer dans les familles comme on l'avait fait pendant les siècles précédents. Et à partir du moment où c'est un sacrement, mais attention, un sacrement que se donnent les époux entre eux.
C'est-à-dire qu'autrefois, on se mariait dans les foyers, à la maison.
Oui, comme on le faisait à Rome, ça se passait. Alors, on ne faisait plus les prières au dieu lard ou au dieu, mais...
Et d'un seul coup, on se rend à l'église, comme pour un baptême ou un enterrement.
Et un prêtre est présent. Et en plus, ce qui est très important, c'est qu'il faut publier les bans un certain nombre de semaines à l'avance. Ceci pour éviter les mariages clandestins, qui était, enfin pas monnaie courante, mais c'est vrai que lorsqu'une fille avait de l'argent, il y avait toujours un garçon sans le sou qui s'arrangeait pour l'amener loin de sa famille et l'épouser.
Et oui, parce que ça c'est la nouvelle, ça c'est une autre nouveauté du Moyen-Âge, c'est que jusqu'ici on se mariait, j'allais dire, entre soi. C'était vraiment une institution sociale qui se faisait à rang égal. Et là, d'un seul coup, à partir du moment où c'est un sacrement et où chacun, à partir du moment où il présente les critères requis, peut se marier, on a le début des mésalliances. Ça, c'est la peur panique dans les familles. Hein.
Oui, oui. Et c'est vrai que les mariages clandestins, on en a un très bel exemple, c'est dans Roméo et Juliette.
Ben voilà.
Roméo et Juliette, où Juliette et Roméo se marient clandestinement.
Ben oui.
Et donc, pour éviter ces mariages clandestins, parce que pour éviter aussi que les fortunes ne passent entre des mains de Manon, quoi.
Ouais,
donc, on va obliger les parents à publier les bans. Donc, tout le monde sait que mademoiselle une telle va épouser monsieur un tel et donc peut s'opposer ou, donc c'est une révolution très profonde dans la conception.
C'est une mesure de protection des familles.
C'est une mesure de protection des familles. Alors qu'on dit c'est une mesure de protection des jeunes filles qui se laissaient emporter, enlever par n'importe qui.
Oui, c'est une façon de dire les choses.
C'est une façon de dire les choses. C'est quand même plutôt les familles.
Alors, le symbole de cette union matrimoniale, c'est l'anneau, bien entendu.
Oui. L'anneau.
C'est un vieux symbole.
Oui, les Romains, les Grecs, tout le monde avait un anneau que l'on passait au doigt, à l'annulaire gauche. Parce que d'après les croyances, on croyait qu'il y avait un nerf très fin qui partait de l'annulaire gauche et qui allait jusqu'au cœur. Donc c'était quand même faire entrer l'amour hein, dans le symbolisme de l'anneau.
Une notion de fidélité cordiale.
Voilà. Et cet anneau va toujours subsister et ce n'est que très tardivement qu'on voit apparaître ce que nous appelons nous une alliance et qui sera portée par le mari et la femme.
Mais ce qui veut dire alors que tout ce qui entoure aujourd'hui le mariage naît relativement tard. Je pense à la célèbre robe blanche, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de mariage en blanc, on voit la robe, la traîne, etc. Sous l'Ancien Régime, on se marie en jaune, en rouge.
N'importe. Les jeunes romaines et les jeunes grecs se mariaient en rouge.
Oui,
parce que le rouge était la couleur du bonheur, de la fertilité. Et comme on espérait que la jeune femme allait donner des enfants, donc on avait été en rouge.
On pouvait se marier en noir aussi.
Écoutez, il y a des tableaux quand même, des tableaux de la Renaissance où tout, on voit des mariés dans des costumes très sombres, ça c'est vrai. La couleur n'avait pas une importance. La couleur prend une importance, je dirais, à la fin du XVIIIe siècle et surtout au milieu du XIXe
siècle. Alors là, oui, ça va être
parce que ça devient la couleur de l'innocence et de la virginité, avec le voile, avec la couronne d'oranger qui est symbole de la virginité aussi.
Avec le bouquet qu'on va mettre sous cloche.
Le bouquet, bien sûr, ou qu'on va offrir à la Vierge, hein, parce que dans les mariages catholiques, ça se fait encore. Et on a vu récemment au mariage qu'a eu à Monaco,
oui,
le jeune marié est allé apporter son bouquet à la Vierge. Donc ce sont des coutumes relativement récentes. Dans les campagnes, au XIXe siècle, on continue à se marier en costume local. Et c'est vrai que c'est très curieux de voir dans Madame Bovary, Emma Bovary, qui se veut une demoiselle au courant des modes de la ville et qui se marie effectivement en blanc.
Elle déjà, c'est par une forme de snobisme, en tout cas c'est ce que veut montrer Flaubert.
Tout à fait, oui.
Alors, ces mariages donnent-ils lieu à des fêtes comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà...
Oui, hein. Alors, ce sont des très grandes fêtes.
Voilà.
À toutes les époques, on a eu des fêtes somptueuses, alors plus ou moins somptueuses.
Selon le rang de la famille.
Le rang et la richesse de la famille. Mais il y a tout d'abord les cérémonies qui ont lieu dans la maison, enfin chez les anciens qui avaient lieu dans la maison, puis après qui vont avoir lieu à l'église, qui vont être entourées de toute une série de rituels qui petit à petit s'installent d'ailleurs. Et puis il y a traditionnellement s'installe le grand banquet de mariage. Hein. Bon, la pièce montée n'apparaît guère qu'au qu'au XIXe siècle, là aussi, dans Madame Bovary, il y a une pièce montée au mariage d'Emma. Et puis, il y a des bals, et ça, on voit d'ailleurs que c'est pendant les fêtes du mariage d'Henri IV et, enfin, et du futur Henri IV et de Marguerite de Navarre, qu'on va trucider les protestants.
Oui, bien sûr. La Saint-Barthélemy, c'est juste après le mariage.
Pendant ces fêtes nuptiales.
Alors, tout ça, ce sont des mariages chrétiens à l'église. C'est une cérémonie, et même, à partir de 1215, un sacrement religieux. À partir de la Révolution française va surgir un tout nouveau mariage, ce qu'on appelle le mariage civil. C'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, puisque c'est celui qui est en cause avec, évidemment, l'élargissement de ce mariage aux personnes de même sexe. On y vient dans un instant en votre compagnie, Catherine Salle.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et cet après-midi, on parle mariage, Franck Ferrand, avec votre invitée Catherine Salle, qui a dirigé avec Sabine Melchior-Bonnet l'ouvrage Histoire du mariage aux éditions Robert Laffont.
Et oui, dans la collection Bouquins. Alors, nous en étions arrivés au grand moment de la rupture absolue. On est sous la Révolution française, la monarchie s'effondre, 1792, et le mariage de religieux devient civil. Alors, ça n'enlève pas la poursuite du mariage religieux. Vous me faisiez remarquer d'ailleurs pendant la publicité que c'est un sacrement pour les catholiques, pas pour les protestants. Il faut le préciser. Donc ça ne retire rien au mariage religieux, mais on ajoute une institution civile, ce mariage républicain en quelque sorte.
Ah, il faut imaginer l'émotion que ça a suscité. C'est bien plus grand que la situation actuelle.
Oui.
Hein, parce que bon, c'est vrai que c'était pas une époque où on pouvait manifester très librement en 1792. Mais il faut comprendre que pour la majorité des Français, c'était un scandale ce mariage civil. Et d'un autre côté, pour les partisans de la Révolution, pour ceux qui trouvaient que c'était très bien, ça a été
une libération.
Et on sait qu'il y a eu, à ce moment-là, les gens faisaient la queue pour venir se marier à l'hôtel de ville.
Alors, non seulement, c'est ce qui est assez drôle, alors j'ai eu l'occasion de raconter ça il y a quelque temps à ce même micro, mais sous le directoire, au moment où le mariage et surtout le divorce deviennent monnaie courante, si je puis dire, non seulement on se marie beaucoup, mais on divorce beaucoup, tout beau, tout nouveau, en quelque sorte.
Oui, ça va, je dirais pas qu'on le fait presque la même journée, mais enfin, c'est presque ça. Hein. On passe, c'est le même bureau d'état civil.
C'est un peu comme les mariages à Las Vegas, un peu.
Oui,
hein,
tout à fait, c'est à peu près ça. Et bon, d'ailleurs, ce divorce va être de courte durée, puisque Louis XVIII va interdire le divorce. Il ne sera rétabli qu'à la fin du XIXe siècle par la loi Naquet. Mais c'est vrai que ça paraît... Enfin, il faut imaginer les Français de l'époque. Ça paraît à ces Français une liberté, à la fois le mariage civil et à la fois le mariage et le divorce.
Il y a un film évidemment très célèbre, hein, le film de Jean-Paul Rapneau en 1971, c'était Les mariés de l'an 2. Original du film de Jean-Paul Rapneau, ce film avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert, bien entendu, la musique était composée par Michel Legrand de ses Mariés de l'an 2. Alors, ça nous fait rire, évidemment, hein, cette espèce d'excès de mariage et de divorce à la Révolution, mais en même temps, il faut dire que c'est une sorte de libération après des siècles et des siècles d'un mariage intangible.
Hein. Et ce qui est curieux, c'est que la France va garder ce mariage civil, parce qu'après tout, ça aurait pu être...
Oui, à la Restauration, on aurait pu le supprimer.
On aurait pu le supprimer. Et c'est vrai que la France, quand même, présente ce cas très particulier de posséder deux mariages, ce qui n'existe pas dans les autres pays. Aux États-Unis, on se marie soit à l'église, ou devant un prêtre, un pasteur, ou devant un officier d'état civil, un juge, mais on n'a pas besoin des deux mariages.
C'est un choix, mais
on ne fait pas les deux. Alors qu'en France, il est obligatoire, si l'on veut se marier à l'église, ou à la synagogue, ou dans un endroit religieux,
de façon religieuse,
de passer devant le maire. Et un prêtre ou un rabbin ou un pasteur ou un imam qui marierait sans le certificat de mariage civil s'expose à des poursuites.
Donc, une fois de plus, la loi républicaine s'impose et est allée très loin. Alors, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, remonte sur le trône en 1814-1815. Il supprime le divorce, mais pas le mariage civil.
Non, ça n'a jamais été supprimé.
Ce qui veut dire que quand même pendant une longue partie du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on a un mariage civil sans divorce. Puisque le divorce n'est rétabli qu'en 1886.
D'ailleurs, si, à moins que je me trompe, mais Bonaparte 84. A épousé Joséphine de Beauharnais civilement.
Il y a cette anecdote incroyable, au moment où le pape Pie VII est venu à Paris pour célébrer le sacre de l'empereur.
On les a mariés religieusement.
La veille, il y a un grand déjeuner aux Tuileries, et à la fin du repas, l'impératrice se jette aux genoux du Saint-Père en disant « Mais c'est une horreur, nous n'avons pas été mariés religieusement. » Et le pape est horrifié, et donc il ordonne que Napoléon et Joséphine se marient dans la nuit qui précède le sacre.
Tout à fait, oui, oui.
Alors ce mariage était, disons-le, très contraignant, notamment, spécialement pour les femmes. Il y a une forte inégalité, il faut venir sur cet aspect-là, évidemment.
Oui, le mari est le maître tout-puissant.
Oui,
et là aussi, il faut voir les cas d'espèce, parce que dans les cas particuliers, parce que c'est vrai que certaines filles ont apporté une telle dot, une telle fortune, que soit directement, soit par l'intermédiaire de leur père ou de leur frère ou de quelqu'un de membre de la famille, elles ont quand même la main mise sur la vie de leur mari. Mais c'est vrai qu'une femme qui aura une liaison sera très durement punie à cause de son adultère, alors que les hommes, on sait bien, entretiennent souvent plusieurs ménages.
Oui. Et alors, sous la Troisième République, ça va prendre des proportions incroyables. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on rétablit le divorce en 1884, on rétablit le divorce, mais sous condition, il faut bien insister là-dessus.
Sous condition, oui, l'adultère étant la cause la plus fréquente de divorce, il faut attendre, vous l'avez d'ailleurs indiqué tout à l'heure dans les dates que vous avez données, il faut attendre le milieu du 20e siècle pour le divorce par consentement mutuel. Qui est quand même très récent dans notre société. Non, autrefois, il faut que l'on puisse prouver que la femme a commis l'adultère.
Alors avec tout ce que ça pouvait avoir d'humiliant,
avec le huissier qui venait,
les commissaires
de police au petit matin. Et bon, ça a été la joie, évidemment, de tous les auteurs de pièces de théâtre ou de romans. Quoi.
Et c'est la vérité historique aussi. D'ailleurs, si vous voulez bien, nous allons vivre une de ces scènes très dramatiques. C'était pendant la Troisième République. Et l'un des personnages de l'histoire est très célèbre, vous allez voir.
Le récit de Franck Ferrand.
Et on vous retrouve donc, Franck, pour votre récit. Vous nous racontez aujourd'hui un divorce dramatique à la belle époque.
On vient de le dire avec Catherine Salle, il y a un gros siècle, la condition d'épouse et celle d'époux étaient en vérité très différentes. L'exemple le plus odieux que je connaisse de cette inégalité de situation, c'est évidemment celui du mariage et du divorce de Georges Clémenceau, notre tigre national, le très révéré père La Victoire de 1918. Alors, tout a commencé entre ce mari et son épouse. À la fin du Second Empire, on est à une époque où Clémenceau réside en tant qu'enseignant aux États-Unis. Nous sommes donc dans le Wisconsin en 1869. Et à cette époque, dans cette région, il y a une jeune femme qui est très connue. On l'appelle la ravissante Mary. C'est Mary Plummer. Elle est orpheline, cette Mary Plummer. Elle avait un père qui était dentiste à Bristol, dans le New Hampshire. Mais quand son père est mort, c'est son oncle qui s'est occupé d'elle, Horace Taylor. Horace Taylor est le frère de sa mère et il fait partie des Quakers, vous savez, hein, ces chrétiens extrêmement rigides, grands lecteurs de la Bible. C'est lui qui s'est chargé de l'éducation extrêmement rigide de sa jolie nièce et c'est lui qui s'est promis de la marier et de la doter le jour venu. Horace Taylor installe Mary dans un pensionnat, tout ce qu'il y a de bien, à Stamford, on est à une heure de chemin de fer à peu près de New York. Et il ne pouvait pas deviner, le pauvre Taylor, que parmi le corps enseignant, alors qu'il n'y a que des demoiselles, tout ce qu'il y a de bien, vous imaginez, il y a un homme, et non seulement un homme, mais un Français, vous imaginez, il a 24 ans, il est aimable, il est beau parleur, il est très séduisant, et il s'appelle Georges Clémenceau. Un mot sur Clémenceau, vous savez qu'il avait fait des études de médecine, et avant d'aller se lancer dans la vie politique, ce sera bientôt le siège de Paris, la Commune, etc., avant ça, il a la curiosité de s'en aller aux États-Unis pour étudier le système politique américain, et pour gagner sa vie, eh bien, il devient professeur de français d'histoire, et aussi d'équitation, car il faut savoir qu'en Vendée, il avait eu l'occasion de devenir un excellent cavalier. Alors c'est un prof comme on peut les rêver, vous savez, il est plein de vie, il est même un peu excentrique. Les jeunes filles sont ravies d'avoir ce professeur, et il y en a une notamment, Mary Plummer, qui retient l'attention de Clémenceau. Et c'est Jean Clary qui nous raconte la scène. On est un jour où on fait il est à cheval avec ses élèves, hein, il est en train de leur donner un cours, et évidemment il amène son cheval au botte à botte avec celui de Mary. Mademoiselle Plummer, vous avez les jambes longues et le buste court.
Oui.
C'est votre professeur d'équitation qui se permet de vous le signaler. C'est exactement ce qui convient pour monter à cheval. L'équilibre y gagne et aussi l'attrait de la silhouette.
Oui.
Mademoiselle Plummer, j'ai autre chose à vous dire. Je vous écoute. Ce n'est plus le professeur d'équitation qui vous parle maintenant. Ah bon, mais qui est-ce alors? C'est l'amoureux, mademoiselle Plummer. Et là, Clémenceau n'hésite pas, il a ce côté hussard, vous savez. Dès le jour suivant, il va demander la main de la jeune fille à son oncle. Alors, c'est un étranger, c'est un petit prof, on ne sait pas trop qui il est. Inutile de vous dire que l'oncle Horace Taylor avait de tout autres ambitions pour sa nièce. Mais surtout, ce qu'on découvre très vite dans la famille, c'est que cet épouvantable Clémenceau est un anticlérical, un homme parfaitement hostile à toute vie religieuse. Vous imaginez, dans la famille ultra-religieuse de Mary Plummer, ça ne passe pas du tout. Aucun accord n'est possible et on va voir Clémenceau obligé de rentrer en France. Il y a un moment déchirant, hein. Ce sont les adieux des deux fiancés, si l'on peut dire. Et là, Clémenceau est terrible. Il dit à Mary, il va vous falloir choisir entre Dieu et moi. Et le voilà qui rentre. Il rentre en Vendée. Il s'installe pour exercer la médecine. Et là, au bout de quelques temps, il reçoit un câble, comme on disait à l'époque. Il reçoit un télégramme, si vous voulez. Et sur ce télégramme, il y a simplement ces trois mots dans un français approximatif de Mary. Je choisis vous. Alors Clémenceau retourne aux États-Unis, il enlève littéralement sa promise et il revient en France pour se marier civilement, bien entendu. Le voyage de noces se passe évidemment en France. Vous imaginez la colère de la famille, Horace Taylor désavoue, il renie, il déshérite sa nièce. Et arrive 1870, ce siège de Paris dont je vous parlais, le début de la carrière politique de Clémenceau, qui lui est à Paris, tandis que sa femme l'attend en Vendée. Mon plus cher amour, toutes mes pensées ne vous quittent jamais. J'ai hâte de vous serrer sur mon cœur. Je vous embrasse follement, lui écrit-elle dans une des très nombreuses lettres dont elle l'abreuve, au moins autant que le permet la poste difficile de cette époque. C'est qu'on la correspondance passe par des ballons à l'époque du siège de Paris. Ne nous y trompons pas, Clémenceau est un véritable tombeur. C'est un dandy qui circule beaucoup sur l'avenue du Bois, allée des Acacias, aux environs de la cascade de Boulogne, bref, partout où l'on trouve de jolies Amazones. Et l'on sait que Clémenceau non seulement va multiplier les conquêtes, mais qu'il s'en vantera avec Léonide Leblanc, cette demi-mondaine très célèbre et qui le quittera pour le duc d'Aumale, avec Suzanne Reichenberg qui est de la Comédie française et qui, elle, le quittera pour le général Boulanger, décidément, avec la comtesse d'Aunay, dont le mari était ambassadeur de France à Berne. Je pas toutes vous les citer, car c'est un peu comme dans Don Giovanni, vous savez. On estime que Clémenceau aura eu en tout quelques 800 maîtresses, la pauvre Marie, vous imaginez. D'autant plus qu'elle est au courant, Mary, bien sûr. Elle sait exactement quelle est son infortune. Elle ne dit rien, elle se contente de verser des larmes, elle attend, elle fait bonne figure. Sauf que, petit à petit, elle remarque le jeune secrétaire, un des secrétaires de son mari. Il s'appelle Paul de Kercovan. C'est un jeune homme nettement plus jeune qu'elle, mais il est très poli, très gentil. Il accepte d'accompagner très souvent Mary et il se montre aussi tendre, aussi empressé pour elle que Clémenceau, évidemment, est extrêmement rude et abrupte par ailleurs. Évidemment, quand on s'appelle Clémenceau, on a des relations très importantes dans la police et très vite, Clémenceau est averti de ce qui se passe. Paul de Kercovan a loué une garçonnière rue de Presbourg, on est donc à l'Étoile, si vous voulez, à Paris. Et au second rendez-vous qu'il a, le second, vous vous rendez compte, qu'il a avec Mary Plummer, avec l'épouse de Clémenceau, la porte s'ouvre et c'est un peu la scène qu'on racontait tout à l'heure avec Catherine Salles, c'est-à-dire que le commissaire de police entre et il n'y a pas seulement le commissaire de police de l'arrondissement, il y a également Clémenceau en personne. Constaté, commissaire, cette femme. Mais alors, à ce moment-là, l'amant se lève, il est tout nu. Je suis à votre disposition pour réparer, dit-il. Vous savez, c'est réparer, c'est-à-dire un duel. Et Clémenceau le dit. Ah non, quand je vous vois, je pense que vous êtes plutôt à la disposition de madame. Eh bien, restez-y. Et ça va être terrible ce que fait Clémenceau. C'est-à-dire qu'il va faire infliger à sa femme d'abord 15 jours de prison. Ça, on est dans la loi de l'époque. Et pendant ce séjour en prison, il demande le divorce. Il s'arrange pour que tout ça aille très vite et il obtient bien entendu son divorce. Il va faire réunir toutes les affaires de sa femme. Il lui colle deux grosses malles sur le palier de l'appartement. Elle ne pourra même pas rentrer chez elle. Clémenceau va interdire à Mary de revoir ses propres enfants, car elle avait donné deux enfants à Clémenceau. On la conduit sous bonne garde, c'est-à-dire que ce sont deux agents de la force publique qui la conduisent à Boulogne. Elle est embarquée sur une espèce de rafio minable, un bateau hollandais avec un billet de troisième classe. C'est épouvantable ce qui se passe. Elle doit retraverser l'Atlantique et vous imaginez le comité d'accueil de l'autre côté. Alors certes, son oncle Horace Taylor est mort à ce moment-là, mais l'accueil de la famille est terrible. Elle n'a plus d'argent, elle va devoir travailler dur pour essayer de survivre. Elle ne reverra jamais ses enfants et elle ne cherchera jamais à se venger. changer, à alerter les journaux, à jeter l'opprobre sur cet homme politique français qui est en pleine ascension, qui va devenir une véritable célébrité. Mary Plummer gardera toujours le silence, elle vivra piteusement, elle ne reverra, je vous l'ai dit, jamais ses enfants, et elle s'éteindra 7 ans avant son indigne mari, en 1922 seulement.
Extrait du Canon de Pachelbel. Restez bien avec nous, Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Attention, attention, lève-la. Oh, mais ce qu'elle est belle la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Le marié, sûrement qu'il en revient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie, tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque t'as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit d'un rien pour que ça casse.
Regarde. Vive la mariée sur Europe 1, c'était Bourville, un titre totalement dans le thème, hein, puisqu'aujourd'hui, Franck, on parle mariage avec votre invitée Catherine Salle, qui a dirigé avec Sabine Melchior-Bonnet l'ouvrage Histoire du mariage aux éditions Robert Laffont, collection bouquins.
Et oui, et justement Catherine Salle me disait que ce qui est arrivé à l'épouse de Georges Clemenceau a dû arriver à tellement d'autres épouses moins célèbres, hein, évidemment.
Bien entendu, le mari était tout puissant, et c'est vrai que en plus, être dans la situation d'une femme divorcée dans la société française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était être rayé de la société. Plus personne ne vous voyait. On était, le mari prenait généralement les enfants, comme a fait Clemenceau, et on ne tenait absolument pas compte de ce que pouvait avoir fait le mari à côté, parce que.
Alors, ce que cherche une partie des femmes à cette époque, on est au tournant des années 1900, c'est une situation aussi, d'où les annonces matrimoniales, etc., qui vont naître, hein, qu'on va voir se développer.
Des annonces matrimoniales pour les... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des tas de femmes qui n'arrivent pas à se marier, pour des raisons diverses. Hein, parce qu'elles n'ont pas de dot, généralement, mais enfin, ça peut être d'autres raisons. Et c'est vrai que les annonces matrimoniales vont faire la réputation du chasseur français, mais enfin, il y a eu d'autres journaux d'annonces matrimoniales. Et je rappelle que c'est...
Ça fait penser à Landru, tout de suite, quand vous parlez de ça.
Landru recrutait ses victimes par des annonces matrimoniales.
Oui, évidemment.
Hein, donc,
alors, il y a quand même une nouveauté. D'ailleurs, on a ces cartes postales des années 1900 jusqu'en 1920 avec Effleurons la Marguerite, etc. Il y a quand même la naissance de ce qu'on appelle le mariage d'amour. Alors, il y avait déjà des mariages d'amour depuis des siècles, mais là, ça devient officiel.
Oui, ça devient officiel et ça va surtout vraiment démarrer, je dirais, au moment de la Première Guerre mondiale.
Voilà.
C'est-à-dire avec cet bouleversement de la société qui a été la Première Guerre mondiale, la place de plus en plus grande des femmes dans la société et ces garçons dont on voyait qu'ils partaient au front, qu'ils étaient tués, donc il fallait tout de suite concrétiser, en quelque sorte, l'amour entre un homme et une femme.
Alors il y a un gros flottement, si je puis dire, sur le mariage dans l'entre-deux-guerres, et puis ça repart un peu après la Seconde Guerre mondiale pour se mettre à décliner d'une façon incroyable, au point que dans les années qui ont suivi mai 68, on s'est dit que le mariage était une institution en grand danger et que peut-être il allait tout simplement dépérir. Et puis, dans les années 80, le mariage j'ai envie de dire, c'est un peu comme les avions, il a repris de l'altitude. Et là, maintenant, il y a de nouveau beaucoup de mariages. Alors, toutes ces habitudes, toutes ces petites histoires, si je puis dire, du mariage, Jean-Claude Kaufmann, qui est sociologue, les a réunies dans un ouvrage qui s'appelle « Mariage, petites histoires du grand jour de 1940 à aujourd'hui ». Bonjour Jean-Claude Kaufmann.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir pris au téléphone. Alors, cet ouvrage est constitué essentiellement de témoignages. Ça, moi qui ai fait beaucoup d'histoires orales, je suis sensible à votre démarche, bien sûr. Où les avez-vous recueillis, ces témoignages ?
Oui, alors après un appel à témoignages en partenariat avec le journal Ouest France et le site auféminin.com, donc un petit article pour solliciter les gens et tout de suite une avalanche de réponses, une centaine de réponses, parce que ce thème-là est tout de suite très vibrant. Les gens ont envie de raconter, gardent des tas de souvenirs de ce grand jour qui a marqué leur vie. Et donc des récits avec des petites anecdotes, parce qu'il y a toujours les grains de sable le jour du mariage, mais les grains de sable, le moment donné, qui sont un peu pénibles à vivre, constituent les meilleures histoires à raconter par la suite.
Et alors c'est très joliment présenté hein, dans une sorte d'album, c'est publié par Textuel. Alors on a des photos des mariages, on a toutes sortes de publicités de l'époque, etc. On a l'atmosphère, si je puis dire, du mariage, et puis en rouge les témoignages eux-mêmes. Par exemple, Ginette, qui s'est mariée avec Charlie en juillet 1950, dit « Se marier uniquement civilement en 1950 était fort peu fréquent. Les cérémonies civiles se pratiquaient en catimini à l'époque. Notre mariage a pourtant tout eu d'un mariage traditionnel. Mon oncle avait superbement organisé les choses à la mairie avec tapis rouge, palmiers dans l'escalier et musique de Beethoven sur Tepaz. Un car avait été loué pour nos familles, pour tous les déplacements de la noce, et nous sommes d'abord allés au parc pour les photographies, puis nous nous sommes rendus au restaurant et enfin à la salle de bal. » Ce sont autant d'expériences vécues que vous collectez, et l'on voit évoluer l'image que la société elle-même se fait du mariage, en quelque sorte.
Oui, alors on part des histoires, des témoignages des gens, du vécu intérieur, et en même temps, ça permet de voir comment évolue la société autour de cet événement qu'est le mariage, parce qu'on a cette impression que les rituels se répètent un peu à l'identique, que le mariage évolue lentement, et en fait, on se rend compte qu'il y a un besoin de maintenir le rituel, parce que le mariage aujourd'hui est de plus en plus un symbole, un marqueur symbolique, le marqueur d'un engagement, donc il faut qu'il y ait les rituels traditionnels du mariage, mais derrière, ça bouge énormément, chaque petite période de 10-15 ans qui est scandée dans le livre,
c'est passionnant, hein.
On voit les mouvements, les changements de comportement.
Vous commencez, vous, en 1940, donc on commence par la période de l'occupation, évidemment, et là on se rend compte que le mariage est une sorte, à ce moment-là, de contrepoison, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est un moment d'émotion, de retrouvailles dans la grisaille ambiante.
Oui, on aurait pu penser que les mariages s'effondrent, alors les chiffres diminuent, mais il y a un tel désir contre la société si dure, les événements qui se vivent, un tel désir de se marier qu'on essaie de se marier quand même. Alors parfois à la campagne, c'est un petit peu comme avant, mais en ville notamment, ça peut être très difficile.
Bah oui, parce qu'il faut évidemment, puis pour réunir les familles et surtout pour trouver de quoi leur donner pendant le banquet de mariage, oui, évidemment, c'est difficile.
Oui, alors que ce soit même pas un banquet d'exception, mais que ce soit honorable pour s'habiller, donc il faut franchir des événements. Donc ça a quelque chose du romantisme de la grande époque, parce qu'il faut franchir des obstacles. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir que les mariés de l'époque, leur rêve absolu, c'est d'avoir un mariage normal, quelque chose qui ressemble à un vrai mariage, alors qu'ils sont dans un franchissement d'obstacles permanents qui a quelque chose de très exceptionnel.
Alors dans les années 50 et même dans les années 60, et les boîtes à photos de toutes les familles d'auditeurs qui nous écoutent sont pleines de photos et de films Super 8, etc., on revient à une forme de normalité. Hein. Le mariage n'a jamais été aussi institutionnel qu'à cette époque.
On a l'impression de revenir à une forme de normalité. En fait, on construit une nouvelle normalité. Parce que dans l'avant-guerre, c'est quand même, surtout dans les campagnes, c'est le mariage traditionnel avec la collectivité qui est là. Là, on invente les nouveaux rituels. Par exemple, on va manger au restaurant et le restaurateur, il va pas simplement marquer petit pois, mais il va marquer perle du jardin. Donc, il va s'inventer...
On fait des jeux de mots sur les menus, oui.
Voilà, sur les menus, il va s'inventer... poète, il y a une avalanche de fleurs. Chez le photographe a demandé au jeune marié de prendre une pose romantique. Donc tout ça baigne dans cette atmosphère amoureuse et il y a des nouveaux rituels. La robe blanche opulente, parce qu'à la libération, elle ne descend pas toujours jusqu'aux chevilles, la robe, parce qu'il n'y a pas assez de tissu. C'est un petit peu la mode, mais la mode à bon dos, c'est qu'il n'y a pas assez de tissu pour descendre jusqu'en bas. Donc là, c'est la grande période des années 50, la grande période de référence On a dans l'esprit ce mariage de, éternel de tous les temps, et en fait l'imagerie qu'on a dans la tête, elle
évolue
essentiellement aux années 50.
Alors ce qui est très, très frappant, c'est évidemment avec la période contestataire de la fin des années 60, et notamment avec la révolution culturelle symbolisée par mai 68, le mariage, je disais il y a un instant, devient presque une chose mal vue par toute une partie de la jeunesse.
Hein. Oui, c'est la chanson de Brassens.
Oui, voilà,
j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Pourquoi des papiers ? C'est l'amour qui compte. Et la révolution derrière cela, c'est la révolution sexuelle. Hein. C'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à une sexualité sans passer par l'institution. Et ça, on en est encore les héritiers aujourd'hui de cette révolution sexuelle. C'est-à-dire que les couples commencent sans passer par l'institution. Mais ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on se marie malgré tout. Parce qu'il y a ce désir de bouleversement, mais en même temps le désir de réunir la famille pour malgré tout s'engager. Donc on se marie avec toute une série de négociations.
Une sorte de grand-messe familiale maintenant finalement.
Pardon ?
C'est une sorte de grand-messe familiale.
Familiale, mais avec des petits heurts, parce qu'il y a une incompréhension entre générations. Alors, on le voit dans les photos, il y a les personnes qui sont habillées très traditionnellement avec le costume, les autres qui sont en jean, et la manière de ne pas perdre la face dans les négociations, c'est justement du point de vue vestimentaire. Tel marié, par exemple, qui a accepté le mariage à la condition de se marier avec une robe rouge. Et elle est calme dans sa tête parce qu'elle a maintenu sa révolte d'une certaine manière.
Alors, peu à peu, ce mariage va donc reprendre le dessus. Aujourd'hui, on se marie beaucoup de nouveau. C'est même plus étonnant que ça, puisqu'une partie des homosexuels eux-mêmes veulent se marier maintenant. Donc, il y a une sorte d'attrait du mariage, un attrait tout neuf.
Oui, alors, depuis une vingtaine d'années, les chiffres ont régulièrement, lentement diminué. Alors, ils ont aussi diminué parce qu'on se marie de plus en plus tard. Et puis, cette année, il y a un petit rebond du nombre des chiffres. Donc, il y a un petit peu plus. Mais l'important, c'est pas tellement ces chiffres, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui choisissent de ne pas se marier, de s'engager dans la vie sans se marier. C'est pas obligatoire de se marier.
Mais bien sûr.
Ce qui est important, c'est l'investissement émotionnel et symbolique dans le mariage. Le mariage prend une dimension considérable. Quand on le décide, c'est pas pour rien. On est prêt à se ruiner.
On peut dire que la vie de la famille va tourner autour de ça pendant 18 mois à chaque fois.
Ah oui, parfois on va passer un temps fou, par exemple, pour décorer soi-même les petites pochettes qu'on va offrir à chaque invité, etc. Il y a un surinvestissement dans cette journée qui est absolument considérable, je crois, qui a rarement été égalé dans l'histoire.
Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann. Mariage, petites histoires du grand jour de 1940 à aujourd'hui. C'est donc un très bel album publié par Textuel. Et puis, je rappelle, de Catherine Salle et Sabine Melchior-Bonnet, en tout cas dirigée par ces deux grandes érudites, deux grandes connaisseuses de la question, l'histoire du mariage chez Robert Laffont, collection bouquin. Une histoire du mariage à laquelle vous allez peut-être devoir ajouter un chapitre bientôt, Catherine Salle.
Exactement.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces anciens mariages qui finalement s'en est rendu compte ne différait peut-être pas tant que ça des mariages actuels, ou alors peut-être à la marge. Merci beaucoup.